Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h05 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, spécial Coupe du Monde. Et oui, ça y est, c'est parti, 2 heures d'émission, 2 heures de débrief avec Jean-Louis Tour comme tous les jours. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Avec Daniel Riolo sur place, salut Daniel.
Salut les amis.
Et bien sûr, notre maître à tous, les consultants, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour à tous.
Salut.
Alors bon, Jérôme, alors, on est parti pour un grand débrief évidemment du match de l'équipe de France. Cette défaite donc 1-0 face à la Tunisie. On a plein de choses à analyser. On vous attend au 32-16, on aura des réactions en direct du stade de la Cité de l'Éducation d'Al Rayyan. On va juste revenir quand même sur cette fin de match incroyable. Donc on pensait avoir égalisé avec Griezmann, finalement but annulé. Il y a eu un peu de confusion. Jeannot, refais-nous juste la fin rapidement, il va nous la refaire tout à l'heure. Donc c'est un hors-jeu d'Antoine Griezmann au début de l'action.
C'est un hors-jeu Jean-Louis. Mais
l'arbitre a déterminé qu'il faisait action de jeu sur cette action.
C'est ça, mais ce qui est gag et c'est ce qui rend ce scénario de malade, c'est qu'il avait sifflé à la fin du match.
Exactement. Bah tiens, Jeannot, voilà. Jeannot est là pour nous refaire le film il y a une seconde.
Ouais, c'est assez incroyable parce que quand on revoit les images, on les a vues nous avec beaucoup de décalage. On n'a même pas vu l'histoire du semi hors jeu automatique avec l'image en 3D. On est sur la joie de l'équipe de France avec le but d'Antoine Griezmann. Alors certes, quand on voit à vitesse réelle, on voit que ce ballon passe et est légèrement touché par un défenseur tunisien, mais il n'y a pas de faute, il y a rien qui nous vient immédiatement à l'esprit avec Arthur Perrault, dans le sens où la position de départ d'Antoine Griezmann ne nous est pas tellement clair sur le fait qu'il soit en position de hors-jeu. Les Bleus reviennent, arrivent à la hauteur du rond central et l'arbitre siffle la fin du match, lève le bras et siffle. Et à ce moment-là, quand il lève le bras, on voit le quatrième arbitre qui lui aussi lève les bras en lui faisant signe les oreilles. Il discute à ce moment-là avec le quatrième arbitre, avec l'assistance vidéo qui le prévient qu'il y a un doute et qu'il faut qu'il regarde les images. Il est en train de prendre l'information alors qu'il vient de siffler la fin du match, que le banc tunisien s'est levé, que le banc de l'équipe de France s'est levé, que certains commencent à revenir vers le tunnel des vestiaires.
Dans le règlement, t'as le droit de revenir alors que t'as sifflé la fin du match?
Non, messieurs.
Normalement, non. Mais n'empêche que pour finir,
Jean-Michel,
je vous laisse après entre vous débattre. Juste pour dire que il regarde ce qui se passe sur le bord de la touche, il entend ce qu'on lui dit dans l'oreillette, il fait signe au joueur en mettant le doigt à l'oreillette et fait signe l'écran et va voir les images. Quand il va voir les images, il prend le temps de voir la position de hors-jeu, semble-t-il. Ça, on n'a pas la confirmation. Pendant ce temps-là, il n'y a plus rien sur la télé en France. Et nous, on continue à vous dire que simplement, il va y avoir l'annulation du but. Il revient sur le terrain, il annule le but. Et comme il y a eu l'assistance vidéo, il y a ces 2 minutes supplémentaires qu'il est obligé de faire jouer. Et à partir de ce moment-là, but refusé, il va le dire à l'oreille de Mbappé pour lui expliquer. Il voit Griezmann en lui faisant signe, en jette de dépit. Bah, il y avait position de hors-jeu. Pourtant, il avait signé, il sifflait la fin de la rencontre. Il n'en demeure pas moins que à la sortie, le but est refusé et la Tunisie s'impose. Mais pense qu'effectivement, on va en parler très certainement de ce qui s'est passé à l'Éducation City Stadium.
On va en parler tout de suite. Je précise juste un truc, c'est que tout ça est quand même anecdotique pour l'équipe de France.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on reste quand même premier du groupe, malgré ce but refusé. La Tunisie était éliminée quoi qu'il arrive et l'Australie qualifiée à la deuxième place. Voilà, je le précise quand même.
Il y a 18 arbitres autour du match. Et le règlement n'est pas appliqué. Alors, à ma connaissance, mais je veux bien être infirmé de ce que je vais dire ou confirmer. Dès lors, vous savez, la seule action au cours de laquelle un match peut être prolongé alors que l'arbitre a sifflé la fin du match.
Mais oui, c'est ça qui est choquant, bien sûr.
Non, mais vous savez que vous connaissez la seule action.
Ah non, la seule action, vas-y, pardon, excusez-moi.
La seule action, c'est-à-dire qu'il siffle pénalty. Il siffle la fin du match. Le pénalty, il siffle la fin du match. Le pénalty doit être tiré. C'est la seule action. Mais dès lors qu'il a sifflé la fin du match, c'est terminé.
Là, alors pourquoi il fait le contraire, Jean-Michel? Peut-être que le règlement a évolué.
Mais parce que je pense que c'est une grosse erreur, comme c'est une erreur d'avoir jugé hors-jeu. Parce que si vous revoyez l'action, Griezmann
remise de la tête d'un défenseur tunisien.
Griezmann n'interfère pas sur la capacité du défenseur à jouer le duel aérien. Sur la deuxième phase, Griezmann reçoit le ballon et il marque. Le but est complètement valable. Il est appelé.
Après, l'arbitre a dû juger qu'il interférait dans le jeu.
Je pense qu'on peut être en présence d'une très très grosse erreur. Heureusement qu'il n'y avait pas de qualif en jeu, que l'Australie avait gagné de l'autre côté.
C'est pour ça que c'est anecdotique à l'arrivée, parce qu'il se passe plein de choses. On s'en fout un peu.
La grosse erreur, c'est de siffler la fin du match et de revenir sur la.
Non, mais on est quand même dans une très grosse erreur d'arbitrage, malgré le VAR.
Mais il n'y a rien, les scénarios.
Juste pour ajouter quelque chose, normalement, s'il y a dans le staff de l'équipe de France quelqu'un qui connaît les lois du jeu, il dépose une faute technique, une réclamation pour faute technique, et le match doit être rejoué.
Ça servira à rien de toute façon, mais Jean-Michel, non, parce qu'encore une fois, la France,
ça sert à rien. Toute l'élite de l'arbitrage à la FIFA et qu'on voit une chose pareille, moi j'aimerais bien avoir un arbitre français qui puisse, pas Garibian, mais un autre, qui puisse nous dire si, une fois la fin du match étant sifflée, à l'exception.
Je pense que oui. Écoute,
on a quelques contacts d'arbitres. On est en train de les contacter.
On va
essayer d'avoir.
Et moi, je te rebalance la question, Jean-Michel. Est-ce que, vu que t'as l'air d'être à la pointe du règlement, mi-temps,
c'était avant la VAR,
Non, mais attention. Là, je te parle à la mi-temps. Quand la mi-temps est sifflée, est-ce que s'il a fait une erreur, il a le droit de remettre tout le monde sur le terrain quand les joueurs commencent à rentrer pour la mi-temps pour aller se reposer?
Est-ce que tu as le droit ou pas?
C'est la même chose. À mon avis, Jean-Michel, le règlement a dû évoluer parce qu'en effet, c'est déjà arrivé sur certains matchs où il a sifflé à la mi-temps, le VAR l'appelle, les joueurs commencent à rentrer, il dit non, revenez parce qu'il y a l'utilisation du VAR.
Je ne peux pas te répondre sur une fin de match.
Oui, mais je pense que sur une fin de match, c'est pareil, le règlement a dû évoluer, à mon avis. Parce que c'est quand même incroyable que l'arbitre en question doit connaître, et même les arbitres du VAR, ils connaissent le règlement. J'imagine quand même que...
Non, mais on va avoir des réponses dans peu de temps
Ça peut être évolué. Moi, je vous ai parlé de ce que je connaissais avant l'arrivée de la VAR. Mais
Et dans cette fin de match, comme tu le dis, anecdotique, il y aura quand même des choses qui resteront. C'est que dans le monde d'RMC, la France et la Tunisie ont fait un partout. Dans le monde de TF1, la France n'a pas perdu.
Ils sont revenus quand même donner l'info.
Pour l'instant, non.
Ouais. Si, ils sont revenus après.
Dans le monde de TF1, la France avait égalisé.
Dans
le monde réel.
Mais pas dans le monde d'RMC. Jeannot a veillé sur le temps.
Ah, mais heureusement, mais même nous, on avait remercié Jeannot, faut quand même être honnête. On avait fini, puis il nous a rappelé, et quand Jeannot il rappelle, on est obligé.
Et encore une fois, comme je disais.
Moi, je me suis dit, pourquoi il s'énerve pour rien, Jeannot, qu'est-ce qu'il veut?
C'est anecdotique, heureusement, parce que là, si ça se joue à un but près, qualification des Tunisiens, pas des Tunisiens, et que nous, là, il y aurait eu plein de débats. Ouais. C'est pour ça que le plus important, Jean-Louis, maintenant, Jean-Michel et Daniel, c'est qu'on parle vraiment du match et de ce qu'on a vu.
On le fait dans une seconde, ouais. Jérôme. Et parce qu'effectivement, on a vu des choses, on a vu quand même une réaction, même si à l'arrivée, il n'y a pas eu but. On a vu des Français qui ont refusé la défaite, mais qui finalement l'ont quand même subi. Les Bleus ont perdu 1-0 face à la Tunisie. La surprise, c'est l'Australie qui bat le Danemark 1-0. France et Australie qualifiés. On connaîtra à 22h l'adversaire de l'équipe de France en 8e de finale. Ce que l'on sait déjà, c'est que ce sera dimanche à 16h. Ce sera bien sûr sur RMC contre le deuxième du groupe Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Ces équipes qui s'affrontent à 20h. On continue de débriefer donc cette défaite de l'équipe de France. On commence à la débriefer sur le terrain, puisque pour l'instant on était sur l'extra sportif et cette décision incroyable en fin de match. A tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h16 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue notre débrief, bien sûr, de France-Tunisie, cette défaite des Français, 1-0 avec ce scénario incroyable de la fin de match. On est avec Jean-Louis Tour, avec Daniel Riolo, sur place, bien sûr, et avec Jean-Michel Larquet. On continue.
Oui.
Voilà, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, Jean.
Exactement. On vous attend au 32-16 pour revenir sur cette rencontre. Julien Cazard sera là à 18h45 pour son rendez-vous habituel, son Cazard enchaîné. Et on est en connexion permanente avec le stade de la Cité de l'Éducation d'Al Rayyan pour les premières réactions des Bleus après cette défaite 1-0 face à la Tunisie. Mmh. Jérôme, est-ce qu'un match comme ça, troisième match de poule, on est déjà qualifié, ça n'a pas forcément de conséquences, Deschamps fait énormément tourner. Est-ce que ça peut avoir, selon toi, des conséquences sur la suite? Dans le contenu, dans le résultat, qu'est-ce que t'en penses ?
Écoute, ce que j'en pense, c'est que dans le contenu, dans le résultat, on s'en fout, en fait, parce que l'équipe de France était qualifiée et qu'à partir de là, en plus, il avait décidé, Didier Deschamps, de faire tourner, de nous inventer des postes à certains joueurs. Donc même lui a pas mis une équipe au départ pour absolument gagner le match. Après, où c'est, y a un point d'interrogation, c'est, j'entends beaucoup de choses depuis le début de la Coupe du Monde, le groupe vit bien, ça se passe bien, c'est super, c'est comme en 2018, il crée des liens forts, encore plus depuis le départ de Karim Benzema. Ben moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas vu un collectif très fort. J'ai pas vu des joueurs céder, alors que c'était difficile. J'ai vu plus des joueurs subir les événements, se faire marcher dessus par des Tunisiens. Donc déjà, il y a l'impact psychologique. Comment tu apprends le match? Et ça me dérange par rapport à certains joueurs qui n'ont pas joué du tout de la compétition ou qui sont des remplaçants. Ils avaient des choses à montrer aussi aux sélectionneurs pour essayer de bousculer un petit peu la hiérarchie. Et j'ai vu des joueurs amorphes, j'ai vu des joueurs perdus, j'ai vu des joueurs, je te dis, dans les duels, on a été mangés quasiment tout le temps. Alors oui, la fin de match, parce que la Tunisie défend, recule, et qu'il y a des entrants qui ont plus de qualité technique que ceux qui étaient sur place, il y a plus de joueurs offensifs. Donc automatiquement, l'équipe de Tunisie allait acculer, mais ça me dérange.
Je t'interromps pour Wabi Kazri qui est avec Fabrice Hawkins, le buteur tunisien de la victoire 1-0.
Y aller, hein. Oui, Wabi, avec ce résultat, d'abord expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé sur la fin de match, si vous y avez compris quelque chose, et expliquez-nous également comment vous avez vécu ce match. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils ont pris le match un petit peu par-dessus la jambe?
Non, du tout. Faut arrêter de vouloir toujours trouver des faux problèmes. Je pense que la Tunisie a fait un gros match, un gros début de match. On a mis beaucoup de pression, on a essayé de les presser haut. On a mis l'intensité qu'il fallait, on a eu un petit coup de moins bien en fin de première mi-temps. Ensuite, voilà, on a de la chance de se marquer ce but. Donc voilà, on est très content de notre performance ce soir. Mais voilà, ne pas trouver de fausses réponses. La Tunisie a fait un gros match ce soir. L'équipe de France a eu un peu plus de difficultés qu'à la norme. Après, elle a fait tourner aussi. Il ne faut pas non plus être dupe et se rendre compte que les on va dire entre guillemets les meilleurs joueurs, des super joueurs qu'il y avait ce soir étaient sur le banc aussi. Donc voilà, le mérite revient à la Tunisie qui a fait un gros match.
Vous êtes passé par des montagnes russes parce que le but de Griezmann qui finalement n'est pas validé et au final une victoire historique pour la Tunisie.
Ouais, historique. Après me laisse un peu un goût amer parce qu'on aurait aimé avoir une issue favorable de l'autre côté, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur les deux premiers matchs. Et voilà, comme vous dites, elle est historique. Ça sera une maigre consolation, mais je pense que voilà, nous on peut être fiers de nous sur ce qu'on a montré ce soir contre une équipe qui est exceptionnelle avec des joueurs exceptionnels. Maintenant, je leur souhaite vraiment le meilleur parce qu'ils ont des bons mecs dans cette équipe, ils ont un bon groupe, ils ont une équipe de qualité et je leur souhaite vraiment d'aller au bout.
Voilà, Wabi Kazri donc en direct sur RMC avec le buteur Wabi Kazri, la Tunisie qui malgré tout est éliminée donc de la Coupe du Monde.
Non, mais je finis et je donne la parole à Jean-Michel et à Daniel, mais c'est pour ça que je te disais, j'ai encore des doutes sur cette ambiance parce que le genre de prestation collective comme on a vu aujourd'hui et puis le fait d'avoir failli psychologiquement, manque de caractère, ça montre quand même que le groupe a certaines limites dans sa façon de vivre ensemble. Parce que si t'as envie de montrer un beau visage, si t'as envie d'aider tes potes qui sont en difficulté,
Jérôme,
tu montres pas ce visage.
On a mis le casque de Fabrice Hawkins à Wabi Kazri qui est en direct, tu vas pouvoir lui parler, Jérôme.
Salut Wabi, tu m'entends?
Ouais, salut tout le monde, je vous entends, ouais.
Bon, c'est Jérôme Rotel là, hein.
Ça va, Jérôme?
Voilà, ton mentor, c'est lui qui est là. Voilà.
Ouais, mon menteur.
C'est ça. Bon, Wabi, déjà, je voulais te féliciter vraiment, personnellement, parce que tu as fait un gros match et ça me fait plaisir de te voir à ce niveau-là. Tu t'es bien senti, non?
Ouais. Écoute, merci déjà pour tes encouragements. Bien senti, on a essayé de les presser haut. C'est un style de jeu que j'apprécie, de faire beaucoup d'efforts dans le harcèlement. On a été récompensé avec ce but. Et malheureusement, là, on peut pas célébrer cette victoire avec cette qualification, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur les deux premiers matchs. Je pense qu'on était capable de faire beaucoup mieux, notamment offensivement. Mais voilà, on est content ce soir de la prestation. Je pense que le peuple tunisien peut être fier sur ce match-là. On a un groupe qui est solidaire, qui est soudé. On a été récompensé ce soir. Maintenant, on a fait le boulot et maintenant, je souhaite vraiment le meilleur à l'équipe de France parce qu'ils ont des bons mecs, ils ont une belle équipe et j'espère vraiment qu'ils iront au bout parce qu'ils le méritent.
Wabi, une question sur la Tunisie et puis après, j'en aurai une deuxième sur le scénario de l'après-match qui a été un scénario de fou. Comment t'expliques que l'équipe de la Tunisie a montré ce visage-là ce soir? Vraiment, vous avez été bon collectivement, vous avez été bon individuellement. Mais la ligne d'attaque avait tout complètement changé et toi, tu es devenu titulaire aujourd'hui. Moi, ça me laisse perplexe par rapport à ces deux premiers matchs et surtout le deuxième. Il y avait des choses à faire de mieux quand même, non?
Ouais, je suis entièrement correct avec toi. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que je pense que sur le deuxième match, malheureusement, on n'a pas su mettre les ingrédients pour remporter ce match. Donc, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ce soir, on a fait un match très solidaire, très complet, notamment dans l'utilisation du ballon, où on a montré qu'on était une équipe joueuse et qu'on était capable de rivaliser avec les plus gros, même s'il ne faut pas non plus être dupe et savoir que l'équipe de France avait aussi fait tourner. Mais voilà, c'est bien quand même pour la confiance, c'est bien pour le pays. Je pense qu'on a rendu beaucoup de gens fiers ce soir. C'est okay. Ce qui est important pour nous.
Bah bravo, okay. Wabi. Merci. Bravo Wabi, merci encore pour ton but. Et allez, puis je te dis à bientôt.
Merci, j'ai à bientôt.
Allez, bisous, ciao. Bisous.
Wabi Kadri, donc ton merci. Ancien partenaire à Bastia, donc, qui était en direct avec nous. Ouais. Fabrice Hawkins est avec Axel Disasi, désormais l'arrière droit français sur ce match. On l'écoute.
Faux départ.
Dans faux départ. Ah, faux départ carrément. Donc il arrive dans une seconde, Axel Disasi.
Alors Fabrice, dis bien
comme
à Axel
match, quand tu faux départ.
Fabrice, quand tu vois Axel, dis-lui bien qu'on a gagné un quiz ensemble.
Oui, c'est vrai. Il était dans Rotten sans flamme. Voilà, Axel Disasi, exactement. Il y a quelques semaines. Ouais. Et maintenant il est à la Coupe du Monde. T'as vu.
Bon, je sais pas.
Jean-Michel, ouais, d'accord avec Jérôme ce qu'il dit et sur le groupe, ouais, sur le niveau de l'équipe, oui, sur l'état d'esprit.
Oui, sur le comportement, mais moi j'ose espérer. Je voudrais juste faire une petite ouvrir une petite parenthèse et la fermer assez rapidement. J'ose espérer que dans un avenir assez proche ou lointain, peu importe, nous n'ayons pas besoin d'un comportement normal de l'Australie ou du Danemark pour passer au tour suivant, parce que selon le résultat de notre match là. Tu quand même tu es en train de plomber les autres équipes là en ne jouant pas le match à fond contre la Tunisie, messieurs. C'est irrespectueux par rapport aux deux autres équipes où on a joué le match à fond. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que les Australiens et les Danois, s'ils avaient fait match nul, aurait pu avoir un tout petit peu les boules par rapport au comportement des Français face à la Tunisie avec tous les changements.
Michel, c'est
et le comportement, je suis d'accord. Et le comportement de certains joueurs. Et pour en revenir au match lui-même, et je pense qu'on a une heure et demie devant nous, je ne savais pas que l'équipe de France, c'était le centre de formation du concours Lépine. Je ne savais pas que dans l'équipe de France, on pouvait essayer d'inventer des choses, je vous rassure, les brevets, ils peuvent les déposer, personne ne va les retenir. Hein. Mais qu'on invente justement Disasi arrière droit, qu'on invente Kamavinga arrière gauche, qu'on invente Guendouzi piston gauche. Messieurs, alors je fais une fixette, et comme je fais une fixette,
attends,
j'ai bien fixé.
Tu pourras reprendre ta fixette juste après, parce qu'on est avec Axel Disasi, donc cette fois. Oui, avec Nicolas Pelletier. On l'écoute.
Sur ce dernier match, ils avaient.
Faut parler plus fort, Axel.
Ils avaient rien à perdre, donc.
S'il te plaît, merci.
On était préparé là-dessus, donc. Voilà, c'est vrai que ça a été compliqué, mais bon, on a rien lâché, on a essayé de tout donner à l'image de ce but qu'on met à la fin, mais malheureusement, voilà, on n'a pas été récompensé, donc. Voilà, ça fait partie du foot. Maintenant, faut bien se reposer et regarder le potentiel adversaire qu'on aura et. Voilà, comme l'a dit le coach, il y a un nouveau tournoi qui commence, donc il faut se préparer à ça.
Tu penses que le nombre de changements qu'il y a eu, de remplacements qui étaient annoncés...
Les changements, est-ce que ça a rendu difficile la tâche des entrants?
Bah, oui.
Manque de repères?
Certes, il y a eu beaucoup de changements, mais voilà, on est dans un mondial. Je pense que tous les joueurs sur le terrain étaient très contents de débuter. Voilà, c'est un rêve de disputer un mondial, donc il ne faut pas prendre ça comme excuse. Comme j'ai dit, on est dans un mondial, faut se donner à fond. Même si on n'a pas eu l'habitude de jouer ensemble ou bien pas eu beaucoup de minutes de jeu, mais voilà, faut se tenir prêt, c'est ça aussi un mondial. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux sur certains points. Donc maintenant faut analyser tout ça aussi, parce que voilà, il y avait beaucoup de jeunes joueurs aussi. Ça nous a permis de nous situer au niveau international et de voir ce que c'est.
Voilà, Axel Disasi, donc, qui était en direct avec nous, grâce à nos envoyés spéciaux.
Ah oui, t'as noté la capitaine qui a dit qu'ils avaient donné le maximum.
Ils ont donné le maximum, donc l'honneur est sauf. Et donc,
on continue le débrief dans une seconde et la fixette de capitaine Marquet.
Si, il faut envoyer la pub.
Et Jérôme également, on va donner la parole à Daniel aussi, qui s'est pas encore exprimé. Vous sortez de là avec pas mal de commentaires très négatifs sur un match qui n'avait pas d'enjeu. On en continue d'en débattre.
C'est vrai qu'on s'est régalé.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue notre débrief de France-Tunisie et cette défaite des Français 1-0. On est avec Daniel Riolo, on est avec Jean-Michel Larquet et bien sûr Jean-Louis Tour. Jean-Louis, on continue, on va recevoir certainement des joueurs encore et puis continuer à parler de ce match.
On a déjà eu pas mal de réactions après donc cette défaite de la France face à la Tunisie, 1-0. Alors, Daniel n'a pas encore réagi, mais je suis obligé de redonner la parole à Jean-Michel parce qu'il voulait nous parler d'une de ses fixettes.
Simplement parce que j'ai écouté Jérôme qui avait mal à son poste, à son poste de piston gauche. Je te rassure, ton rôle n'est pas en danger, hein, ta place n'est pas en danger, tu seras titulaire, hein, si c'est Guendouzi qui doit te la prendre. Il a attendu quand même la 65e minute pour faire une passe en avant. 65e minute. Et notamment en première période, la seule passe latérale qu'il a eu à faire, qui était de 20 mètres, 25 mètres, elle est partie directement en touche. Non, moi je veux bien qu'à un moment.
Est-ce qu'il faut lui en vouloir? Est-ce que quand
je lui en veux pas, moi. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas du tout. Je constate simplement ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait.
Voilà.
Mais je lui en veux pas. Pourquoi je lui en voudrais?
Non. Mais bien sûr qu'on lui en veut pas. Daniel, qu'est-ce que t'as pensé avant de revenir sur le scénario de malade à la fin, mais de l'ensemble du match, quoi?
Bah, effectivement, la soirée, elle était bizarre de A à Z. On a beaucoup parlé du Z, cette fin de match complètement folle. Mais dès le début, c'était étonnant parce que, en fait, ça ressemble pas du tout à du Deschamps. Je pense pas que Deschamps fasse cadeau d'un match. C'est pas son genre et il a aucunement l'intérêt de le faire. Il veut tout changer dans l'équipe. Pas de problème. Je rappelle juste quand même que les joueurs qui jouent ce soir sont tous des joueurs qui sont au moins deux fois plus cotés que tous les Tunisiens qui étaient sur le terrain. Donc a priori, on est quand même face à un réservoir de joueurs français d'une équipe qui s'annonce comme favorite de la Coupe du Monde. Donc on peut les tailler en disant ils sont mauvais et ce soir ils ont été particulièrement mauvais. Mais a priori, dans un groupe Coupe du Monde où tu as 25 joueurs, on n'est que dans de la crème. On n'est pas dans du joueur de seconde zone.
C'est de l'anniversaire là.
Mais ce qui est étonnant, et là je vais vers Jean-Michel, c'est que tu mets tes remplaçants, mais tu les mets dans des postes, c'était carnaval. À présent, c'était un match de Mardi Gras. Ils étaient tous déguisés à enfiler des rôles et à enfiler des habits qui n'étaient pas les leurs.
L'erreur, elle n'est pas là dans la construction du groupe alors.
Je ne sais pas si c'est dans la construction du groupe, parce que ça nous amènerait à revenir trop longtemps en arrière dans les débats.
Eh ben non,
c'est
la vérité.
C'est juste là, il veut tourner. J'ai aucun problème avec l'idée de tourner, mais pourquoi mettre les joueurs que dans des rôles qui ne sont pas les leurs? Ça donne une bouillie de football, un match qui est mauvais. Et là où on disait on tire pas d'enseignement de cette rencontre, t'es malgré tout obligé de te rendre compte que le banc qu'on trouve extraordinaire, il est certainement bon à un ou deux postes. Mais que pour le reste.
Mais qui l'a trouvé extraordinaire, le banc?
Si t'enlèves, je l'ai dit à quelques postes, si t'enlèves Dembélé que tu mets comment, ça va.
C'est tout. Ouais.
Ça tient. Ouais. Si t'enlèves Giroud, tu mets une autre pointe.
Bah, c'est problématique déjà.
C'est un peu plus problématique.
Au milieu, il n'y a aucune doublure qui peut être au niveau du Chouaméni.
Fofana, effectivement, je suis d'accord avec vous.
Bah après, Fofana, il a joué milieu droit. Hein. Bon, c'est okay, pareil, voilà. Jean-Michel. Hein.
Guendouzi, pareil, joué. Bon, t'avais le milieu de l'OM. C'est pas un milieu niveau Coupe du Monde.
Vous savez que Veretout a joué, les gars. Veretout a joué.
Oui, c'était pas un milieu. C'était pas un milieu Ligue des Champions. Ça n'est pas un milieu Coupe du Monde. Quand en plus tu les fais pas jouer à leur poste, c'est encore plus flagrant. Et à la fin, tu te dis bon, alors quand est-ce qu'il va faire rentrer les titulaires? Griezmann, ok, surtout Mbappé, parce que finalement, Moi, la conclusion que je tire de cette fin de match, c'est que en fait, il y a un homme qui est totalement indispensable dans cette équipe, c'est Mbappé. Je pense qu'avec Mbappé, parce que tu regardes autour, parce que forcément, tu vas peut-être avoir des blessés, des gens à faire tourner, et quand tu fais tourner, t'as pas du gratin. Tu dis avec Mbappé, à mon sens, tu peux battre n'importe qui, mais sans lui, j'ai le sentiment qu'on peut perdre contre n'importe qui.
Non, mais t'as raison. Et puis en plus, quand il rentre, là, je te rejoins à 100%. Mais la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que quand tu te trompes sur la composition d'équipe avec des joueurs comme ça, ok, pas de problème, il y a des joueurs qui jouent pas du tout à leur poste. Mais Jean-Michel, tu l'as bien dit, au bout d'un moment, il faut te prendre en main aussi, il faut essayer de faire des choses pour mettre l'équipe vers l'avant. Là, il y a aucun joueur qui a permis à l'équipe de sortir la tête de l'eau. Les premiers remplacements sont arrivés à la 60e, 63e minute. Là, ça dynamise un peu l'équipe parce que Mbappé, quand il prend le ballon, oui, il accélère. Le problème, c'est que Kylian, il est rentré aussi où je pense qu'il s'était pas préparé pour jouer un match. Il le savait très bien dû à sa douleur à la cheville. Non, il a beaucoup trop de déchets, ouais. Des imprécisions dans les passes, mais comme l'ensemble des rentrants. Dire tout le monde s'est enthousiasmé à la fin. Parce que vous m'avez chambré avec Antoine Griezmann. Ouais, mais Antoine Griezmann, il a du déchet.
Même étant moyen, les rentrants ont totalement étouffé les Tunisiens. Et c'est là où je rejoins Daniel. C'est-à-dire que le delta entre les remplaçants, la performance des remplaçants, des soi-disant remplaçants, et la performance des entrants, même timides, il y a un monde, quoi. Il y a un monde.
Il y a un monde parce que tu rajoutes de la vitesse, de la technicité. Avec l'entrée de Dembélé, avec l'entrée de Griezmann, avec l'entrée de Mbappé, on est d'accord que les joueurs qui sont sortis, Verretou, Guendouzi et j'en passe, il y a pas photo, donc automatiquement l'équipe techniquement elle est plus forte. Après il y a aussi l'impact psychologique d'un match ou dans sa gestion, et tu le sais très bien Jean-Michel, on en a fait des matchs comme ça, tu mènes 1-0. T'es surpris de manger cette équipe de France quand tu t'appelles la Tunisie et que derrière tu joues une qualif, donc tu recules. Automatiquement, si tu recules, les joueurs offensifs, le bloc, il est plus haut de l'équipe de France. Et là, tu trouves des passes à faire ou des frappes à faire qui vont te permettre peut-être de créer des occasions. N'empêche que il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup trop de déchets, même avec les rentrants, parce que ce match, on a failli psychologiquement. Et qui est responsable de ça quand t'es pas prêt au combat? Parce que ça a été ça dès la première minute. Et là, on parle pas de technique, on parle juste de qualité mentale. Quand tu te fais manger par une équipe tunisienne avec une équipe titulaire, il y a pas de souci. Mais quand tu mets tes remplaçants, qui eux ont des choses à prouver, mentalement, tu peux pas faillir. Et moi, je l'ai dit en direct, t'as trop de joueurs qui, à mon avis, se sont embourgeoisés avec ce groupe parce que ils sont en équipe de France, parce qu'on dit beaucoup de choses de bien, ça vit bien, il y a eu de bons résultats, de bons matchs, les meilleurs joueurs, Mbappé, Griezmann, tout ça, ils sont en pleine forme, ils marquent des buts, ils donnent des passes des... Voilà, alors on s'en bourgeoise. Mais non les gars, quand vous êtes, vous avez 2, 3, 4 sélections seulement au compteur, vous devez montrer plus.
Il y a ça, mais quand vous entendez la réaction, certes à chaud, il a peut-être pas totalement analysé la réaction de Disasi en disant on a tout donné, il va falloir qu'on se repose. Il a dit ça, non?
Vous avez entendu ça? Oui, il a dit ça.
Vous vous dites, je sais, on n'est pas dans le même monde. Il va falloir qu'on se repose, il a dit. Il va falloir qu'on récupère.
De parler, c'est des réponses automatiques.
Ah bah c'est des façons de parler. Bon alors ne fais pas d'interview puisque c'est des façons
exactement,
de parler.
Exactement, Jean-Louis. Sinon Jean-Michel a raison.
Mais un enregistrement.
Non mais sinon on les prend pas en direct. On les prend pas en direct, Jean-Louis, et on débat pas.
On les prend en direct, on sait jamais ce qui va être dit.
Non, parfois, mais je suis désolé.
Parfois ils font de la langue de bois. On découvrait pas maintenant.
Mais on est passé.
C'est pas une raison pour surinterpréter ce qui se dit.
Et c'est pas surinterpréter, c'est juste. Moi je te dis, il y a des choses.
Tu tombes dessus cette fois.
Non mais dis ça si.
Alors c'est toi qui dis. C'est une façon de parler.
Je lui souhaite de rejouer à
Disney. Parce que c'est vous qui lui tombez dessus depuis deux minutes, juste pour cette
fois.
Jean-Louis, je ne lui tombe pas dessus. J'analyse les propos, et Dieu sait si les journalistes analysent les propos et tout ce qui se dit. Et même
Jean-Louis,
tout ce qui
ce soir,
ne
il a
se
pas
dit pas. Mais à un moment donné, quand un joueur, au sortir de ce match-là, te dit. On a tout donné, donc t'as l'air de dire moi aussi j'ai tout donné et maintenant alors que ça fait combien de temps qu'il va falloir qu'on récupère et qu'on se repose. Excusez-moi de réagir à ces propos. Donc
et moi
voilà,
je
j'ai
dis,
juste
je
réagi,
dis,
allez, mais j'est, j'ai
c'est,
certainement
c'est très
mal interprété.
Non, voilà.
C'est pas très grave.
Ça explique exactement le mauvais match de la France.
Non, mais par contre ça explique, c'est un ensemble
ça
de choses.
Explique leur attitude,
quand je te parlais, Je t'en parlais de l'attitude, de l'aspect psychologique, le côté mental de ce match. Ok, pour moi, ils ont fait des erreurs. Mais ça peut arriver, hein. Ça m'est arrivé, ça a arrivé à plein de groupes. Ok, pas de souci. Là, la remise en question, elle doit se faire assez forte parce que tu vas jouer le huitième de finale. Peut-être un match contre un adversaire où t'as l'impression que t'es supérieur. Et certainement, c'est ce qui va arriver. On verra le résultat des matchs de ce soir. Mais imagine, c'est l'Arabie Saoudite. Ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être la Pologne, ça peut être ce que tu veux. Bon, on verra ce soir. Tu vas avoir le côté un petit peu où tu te sens supérieur et ce qui est normal. Mais les attitudes de ce soir, elles sont pas bonnes collectivement. Bon. Et encore moins entre ce qu'a dit Issa Sylvie et les autres.
Oui, mais tu peux le rectifier.
Et surtout les attitudes. Moi, tu sais, ce soir, c'est simple. Quand tu es un compétiteur, et Didier Deschamps, je pense qu'il laissera pas passer ça, que tu vois des sourires sur la tête de certains joueurs alors que tu as fait un très mauvais match ce soir, bah écoute, ça me laisse un peu perplexe. Ils sont pas obligés de sourire devant les caméras en faisant le tour de l'équipe de France. Tu peux saluer tes supporters en étant déçu. Et là, je les ai pas trouvés déçus de leur performance.
Bon, très bien. Daniel, tu veux ajouter un dernier mot ?
Non, pas là-dessus. Non, je pense qu'il y a maintenant quelques jours pour rectifier ce problème d'attitude qui concerne des remplaçants, mais à la limite sur ce point-là, peu importe, parce que ça reste des joueurs du groupe France, et c'est pas parce que t'es remplaçant que tu dois accepter de perdre ou de penser que ça n'était pas important. Tu dois au minimum être déçu, parce que justement, si t'es remplaçant, c'était pour te montrer, et tu t'es pas du tout montré, ou en tout cas négativement. Donc Deschamps, oui, va devoir resserrer les boulons. Et je répète vraiment ce qui m'a le plus marqué au sortir de ce match, ce sera mon credo du soir, c'est que vraiment, s'il y a un homme essentiel, c'est Mbappé.
Ok, mais vraiment. Daniel, pour l'info.
Merci. Ça c'est vrai qu'on a attendu d'avoir Daniel Riolo dans Rotten sans plat pour savoir que Mbappé était le meilleur joueur de l'équipe de France et qui portait les autres.
Arrêtez.
Le meilleur.
Mais vous interprétez ses paroles.
Le meilleur éditorialiste,
c'est pas bien, ça.
Franchement, de football. Et là, t'es du niveau de Gilles Favard.
Honnêtement, vous racontez n'importe quoi.
Mais non, mais c'est incroyable.
Vous racontez n'importe quoi.
Mais non, mais c'est fou.
Vous racontez n'importe quoi. Parce que depuis le début de la Coupe du Monde, ce qui a été mis en avant, c'est le collectif. C'est le retour au plus haut niveau de Griezmann. C'est le fait qu'on a joué. C'est le fait qu'on a joué différemment d'un point de vue technique.
Gilles sort de ce corps. Arrête d'échanger
pas
avec
chez nous,
lui.
Pas chez nous.
Pas chez nous.
Non. Va dire ça aux autres émissions.
Pas, mais, pas dans l'émission de référence.
Allez, Daniel, on peut rigoler. Bon, allez, dans une seconde, le casino
est
parti. Allez, à tout de suite.
Ça y est.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On finit la première heure de Rotten sans flamme, spéciale Coupe du Monde, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquet. On va recevoir Julien Cazard dans un instant. Et après 19h, bien sûr, on va continuer nos débats sur l'équipe de France de ce soir avec cette défaite contre la Tunisie 1-0.
Cette défaite peut-elle laisser des traces ? Est-ce qu'elle vous fait changer d'avis sur certains aspects autour de l'équipe de France ? 32-16, on vous donnera la parole. Manu Petit sera avec nous tout à l'heure pour débattre. Et on continuera d'avoir des réactions après la défaite des Bleus face à la Tunisie qui ne remet pas en cause la première place. Les Bleus qualifiés premier, l'Australie qualifiée en deuxième position. Tout de suite, l'artiste.
RMC, Rotten sans flamme.
Le Casar enchaîné.
Je suis pas content, les gars. Vous m'avez fâché, Daniel. Vous m'avez fâché, Daniel. Il va encore. Ça sent. Il va faire un nouveau chapitre des complots. Et vous serez dedans. Me faites pas les malins. C'est le Mediapart plus, hein, Daniel. Donc il va vous trouver des casseroles au cul, les gars. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. On passe une super Coupe du Monde. Moi, j'étais bien hier soir. Ça se passait bien. J'écoute l'after. Il se passe rien de spécial. Et j'ai entendu ça.
L'équipe fait état ce soir d'un coup reçu à la cheville par Mbappé à l'entraînement. Donc
tu fais et Quentin il le fait exprès pour se foutre de ma gueule. Tu crois que ça me fait marrer ? Donc l'eau qu'il a reçu, mais qui c'est qui met des coups à Mbappé à l'entraînement ? Putain, on a déjà perdu Neymar, Danilo, Nuno Mendes, le petit Fimi, il a reçu un coup à l'entraînement, mais on n'a pas l'info. On sait pas quel est l'enfoiré. Donc résultat, il est resté sur le banc et l'autre il le fait quand même rentrer, l'autre il le fait rentrer. Je suis pas bien, Jérôme. Je vais pas tenir, il reste 15 jours de Coupe du Monde, je suis pas bien, Jérôme.
Les sommaires, sommaires.
L'événement, c'est Nasser El Khelaïfi. Je ne sais pas si vous avez suivi, qui est très mécontent de la mairie de Paris. Vous n'avez pas vu, je ne sais pas si tu as vu Jérôme. Il pense qu'on veut le mettre en dehors des parcs des Princes, on veut mettre dehors. Voilà. Et alors, il y a une vraie remise en cause de la mairie de Paris par le Qatar. Alors, mais j'ai envie de me dire, mais pour qui ils se prennent les Qataris pour critiquer Anne Hidalgo? Mais ils savent qui c'est Anne Hidalgo, les mecs. Non, mais c'est ouf. Non, mais ne ris pas, Jean-Louis. L'idée de mettre des passages piétons sur le périph, c'est toi qui l'as eu, Jean-Louis, l'idée ou pas? Non, c'est Anne Hidalgo. Alors malheureusement, elle n'a pas pu, parce qu'elle n'a pas abouti, parce que c'était compliqué à faire. Mais elle a eu l'idée. Les passages piétons sur le périph, c'était son idée. Et l'autre, il se fout de sa gueule. Là, par exemple, je donne un exemple au hasard. Elle rencontrait le maire de Kiev, là, récemment. Tu connais Vitali Klitschko, l'ancien boxeur.
Oui.
Bon,
oui,
déjà, c'est un mec, faut pas trop l'énerver. Mais elle s'en fout, elle. Et le mec, on lui a détruit sa ville, hein, bon, forcément. Donc, la ville est détruite par la guerre. Et Anne Hidalgo, elle vient pour lui proposer... Des solutions pour la reconstruction de sa ville, c'est son trucage.
If you want to rebuild, you need.
Si vous voulez reconstruire, vous avez besoin d'un plan. Sachez que nous pouvons vous aider pour passer de la voiture à la bicyclette. C'est vraiment intéressant. C'est le nouveau modèle.
Voilà. Donc Vitali Klitschko, s'il veut recommencer. Non mais c'est bien, s'il veut, elle lui dit, bah tu sais quoi, tu t'es fait détruire ta ville, fais des pistes cyclables. Elle est géniale cette meuf, vous comprenez pas vous. Et l'autre Nasser, il est pas content. Alors moi j'ai. Et il dit ouais, j'ai fait des travaux, ça m'a coûté 80 millions d'euros, patati patata, et moi j'y suis allé au parc. Hein. J'ai pas vu une seule piste cyclable autour du terrain. Il n'y a aucune toilette inclusive, donc moi je serais lui, je la fermerais. Les Bleus, vous en parliez. Alors moi, je la trouve très bien, cette équipe. Hein, mais visiblement, il y en a qui trouvent qu'elle est trop pétocharde. Pas assez prudente, trop prudente. Vous savez de qui je parle?
Ah bon? Non, mais
ah bah oui,
non.
Une vraie spécialiste qui trouve que c'est une équipe de pétochards. Bah, c'est Sandrine Rousseau. Vous l'avez pas entendu en parler? Écoutez-la.
Non. Mais je pense que l'équipe de France est celle qui manque le plus, et parmi celles qui manque le plus de courage, là, en l'occurrence. Ils sont pleutres. En tous les cas, l'équipe de France ne fait pas preuve de courage, là, dans cette Coupe du Monde.
T'as pardon? Elle est pas courageuse, l'équipe de France, elle a mis 4 milieux défensifs. Oui, mais... Non, mais d'accord, elle a mis 4 milieux. Il y avait que Colomoigny en attaque,
mais
avec Coman.
C'est pas de ça qu'elle voulait parler.
Elle parlait de quoi? Elle parlait des LGBT. Elle parlait du brassard. Pardon, parce que je me disais, on joue avec 4 attaquants depuis le début de la Coupe du Monde, on est courageux. Mais attends, si c'est ça, ok, admettons. Alors, ils font rien, les Bleus? Ils font rien, les Bleus? Ok, ils ont pas de brassard, mais ils chantent la Marseillaise. C'est pas un soutien au LGBT, ça, Jean-Louis? 11 mecs côte à côte qui chantent qu'ils ont l'étendard sanglant qui est levé. C'est pas un truc LGBT, ça? Alors, t'as jamais eu l'étendard levé, toi, quand t'étais avec tes potes sous la douche, Jérôme? Franchement, entre nous. Tu l'as eu, non?
L'étendard est parfait.
Oui, mais il était pas sanglant, il était avec.
Non.
Il était avec, c'est quand même plus rassurant. Je continue. Ils disent, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Une bande de soldats en pleine campagne qui mugissent, tu crois qu'ils font quoi, à ton avis, Jérôme? Hein? T'as déjà entendu un mec mugir? C'est ça, mugir. Et t'as une bande de mecs qui sont à la campagne, entre mecs, qui mugissent. Tu crois qu'ils font quoi? C'est pas un bon message, toi? Hein? T'as jamais mugi, toi, Jérôme? Et alors, t'attends? Et alors, évidemment, je te passe le côté 1500 abus. Alors, par contre, j'ai pas compris, oui, 1500 impurs abreuvent Jérôme Sillon. Je vois pas le rapport avec Jérôme Sillon dans l'histoire, mais à part Jérôme Sillon, c'était un vrai message. Voilà, donc, Madame Sandrine Rousseau, révisez vos classiques. La France fait un vrai combat. Nous, on le sait, cette Coupe du Monde est de plus en plus passionnante, mais aussi perturbante pour certains. Ah, ça, je voulais en parler, parce qu'on se souvient que le pauvre Lionel Charbonnier, hier, ne savait plus quel match il avait regardé. Vous vous rappelez? Il savait plus c'était le Ghana.
Non, l'évolution du score.
Ah oui, non, mais il était plus. Il savait plus qu'est-ce qu'il
regarde. Ça arrive.
Ah, mais il y a pire.
Ça arrive.
Ah, mais Jean-Louis, il y a bien pire que ça. Mais tu plaisantes, j'espère, Jean-Louis. Il y en a, ils savent même pas quel compète ils regardent. Ah non mais oui, il m'inquiète. Ah non mais c'est très inquiétant, écoutez.
Et vous avez dans le podcast le coup de sifflet final, la fin de match du Sénégal qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
J'avoue que je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas. Alors, écoute, j'ai regardé quand même l'équipe du Sénégal. Alors, non mais t'as pas complètement tort. Il y a Koulibaly. Koulibaly, il est qualifié avec Naples. Diallo, il est avec Leipzig. Mendy avec Chelsea. Bamba Dieng et Pape Gueye. Attends, je cherche mes fiches.
C'est la base de la Ligue Europa.
Attends.
C'est la base de la Ligue Europa. Allez, il faut l'accompagner. C'est pas vrai. Et l'OM a tout perdu. Mais non, l'OM était en Europa League.
Non, ils sont pas en huitième. Sénégalais, pas tous. Je suis désolé, Jean-Louis. C'était bien tenté, mais non, Sénégal n'est pas en huitième. En revanche, Ils sont en huitième de Coupe du Monde et t'imagines bien que tout le monde était heureux au pays, surtout un homme. Il y a un homme qui était très heureux au pays, c'est le président du Sénégal.
Ah.
Et il a voulu rendre hommage à ses joueurs.
Ah oui.
Mes chers compatriotes, je tiens à vous faire part de ma fierté quant à votre qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA.
On dit la FIFA.
Et bon, la FIFA, on s'en branle. Qui sait déjà qu'a donné un nom de gonzesse à un organisme qui régit le foot mondial? Bref, bravo à tous mes compatriotes. Vous représentez majestueusement notre beau pays du Sénégal. Vous allez maintenant affronter les Anglais. C'est l'affrontement de deux continents, de deux footballs et de deux cultures surtout, de deux valeurs totalement opposées. Quand je rappelle que les Anglais, eux, ils sont pour les brassards multicolores.
On dit arc-en-ciel.
On s'en fout, arc-en-ciel multicolore, on s'en tape. Ils ont des valeurs que nous ne partageons pas. Les Anglais trouvent ça normal que les garçons y jouent entre eux à bilbocu.
Le bilbocu, c'est quoi?
C'est comme le bilbocu avec le cucu, fais pas semblant de pas comprendre. Les Anglais, eux, ils trouvent normal que la demoiselle, elle délaisse la banane pour se gaver d'abricot. Et nous ne sommes pas d'accord. Si c'est pas la fille qui vient nous chicorer la branche de manioc, qui c'est qui va le faire? C'est nous. On n'est pas assez souple. Alors, messieurs les Anglais, tirez les premiers si vous voulez, mais pas dans les fesses du copain. Surtout que ça donne des leçons, mais il suffit d'un petit carton jaune pour faire pipi culotte et adieu le brassard. Alors, rendez-vous le 4 décembre à 20h et ce soir-là, LGBT ou pas, ça va faire mal au cucu. Vive la République. Vive le Sénégal.
Vive le Sénégal.
On a hâte d'y être. Franchement, ça va être chaud. Le 4 décembre, rendez-vous. Et nous, on se retrouve demain. Bonne soirée.
Le casar enchaîné.
Et à ce jeu, 18h45 pour le casar enchaîné. Dans une seconde, on continue notre débrief sur ce Tunisie-France. La défaite de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde qui ne remet pas en cause la première place. Les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale. Manu Petit va nous rejoindre pour nous donner son avis. On va vous donner la parole au 32-16. Vous entendrez Didier Deschamps. Et en plus, on va tout vous dire sur cette fin de match ubuesque. Est-ce qu'il y a eu une faute de la part de l'arbitre? Le but de Griezmann finalement invalidé à la dernière minute. On fait le point. Seconde dans Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.